Retrouvez en exclusivité sur NVS Radio un acteur économique de notre territoire. Les rendez-vous de l'économie du territoire, c'est tous les mardis à 19h sur NVS Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les rendez-vous de l'économie du territoire. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Delille Torgursul, qui est le président de Foule Nevers Conciergerie et du café Laverie à Nevers.
Bonjour
Delille.
Bonjour.
Merci d'être notre invité et merci. Nous allons parler aujourd'hui de conciergerie, d'immobilier, de Airbnb, de plein de choses dont on entend beaucoup parler dans l'actualité et dans les projets de loi de finances. J'aimerais d'abord que vous puissiez expliquer à nos auditeurs ce qu'est une conciergerie, déjà.
Alors, pour faire simple, une conciergerie, c'est une société commerciale qui s'occupe de la gestion des biens en location courte durée pour les investisseurs. Donc, ça passe par la blanchisserie, le ménage, le SAV, j'appelle ça, client, et tout ce qui est réassort, achat pour les logements. Voilà, tout simplement.
Alors, dans le SAV client, il y a l'accueil des clients, comment ça se passe?
Alors, l'accueil de clients se fait de manière autonome.
Donc oui, avec les boîtes à clés.
Voilà, c'est ça, boîte à clés sécurisée. Et des fois, il y a des besoins ponctuels, comme une dame qui avait besoin d'une couette hier, qui m'a appelé, parce qu'elle n'était pas assez chaude pour elle. Donc, on l'a achetée aujourd'hui, et après l'émission, je vais aller lui déposer. Donc,
d'accord.
C'est des petites subtilités qu'on gère au quotidien.
Donc, en fait, les voyageurs qui louent un Airbnb, qui ont un besoin, en fait, c'est vous qui le contactez et pas le propriétaire directement.
C'est ça. Nous, on est le concierge à leur service, en fait.
À leur service. Alors, ça, du coup, ça nous permet de savoir ce qu'est la conciergerie. Donc, vos clients, ce sont des propriétaires privés, essentiellement.
C'est
parce
ça.
Que l'Airbnb, ça concerne essentiellement les privés.
Privés, SCI, SAS, après chacun investit comme il veut,
oui.
Mais c'est des personnes privées.
Voilà, ouais. C'est ça. Quel est l'intérêt pour eux de faire appel à votre conciergerie?
La rentabilité. Donc ils cherchent à booster leur rentabilité sans avoir à s'occuper de tout ce qui est chronophage.
Oui.
Et donc c'est principalement l'argent qui les attire.
C'est très mercantile tout ça. En même temps, on parle d'économie. Donc,
d'argent.
Quand vous dites booster la rentabilité en éliminant tout ce qui prend du temps, c'est quoi qui gêne aujourd'hui les propriétaires qui font de la location courte durée?
La location courte durée, en brut, en termes de chiffres, on est à 3 fois le loyer classique en moyenne.
Oui.
Et après, quand on enlève nos charges, on est à 2 fois le loyer sans s'occuper de quoi que ce soit en termes de gestion. En
D'accord.
règle générale, c'est ça. Après, ça dépend du bien. Si c'est un bien qui est en dessous de la moyenne, comme je le dis souvent, déjà le louer, c'est bien. Mais quand on a des prestations de qualité, ça se loue plutôt facilement. Et là, on arrive à bien booster la rentabilité.
D'accord. Parce qu'en fait, les propriétaires, quand ils le font tout seuls, ils n'arrivent pas forcément à gérer ça.
Soit ils sont déjà en activité, ils n'ont pas le temps et ils ne sont pas du coin. J'ai des investisseurs de partout et ils ne veulent pas s'occuper de ça.
Oui.
Gérer une femme de ménage, ils n'ont pas le temps. Gérer les voyageurs, ils n'ont pas envie. Et
oui.
Ils délèguent la totalité. Et nous, on rend des comptes aux propriétaires.
Donc, c'est une délégation de la totalité de la gestion du bien.
Pour certains.
Pour certains.
Voilà.
Sinon, il y a des options à la carte.
C'est ça. Nous, on s'adapte aux clients. Et j'ai certains clients qui ne maîtrisent pas du tout ce qui est commercialisation.
Oui.
Donc, prise de photos, publication sur les différentes plateformes, gestion des prix. Nous, on s'occupe de ça. Et eux, ils ont leur maman, leur sœur ou quelqu'un du coin qui gère le ménage et la blanchisserie. La blanchisserie, ils ont une machine à laver qu'ils utilisent avec un roulement à faire pour les draps. Donc voilà.
D'accord. Ouais. Et au niveau de vos clients, justement, qu'est-ce qui est le plus demandé? C'est la prestation complète ou c'est au contraire la commercialisation?
prestation complète. Oui. Ouais, en règle générale.
Vraiment c'est, délégué.
Ouais, ils veulent déléguer la totalité. Ils font cet investissement-là en annexe pour que ce soit passif, parce qu'ils ont une autre activité.
Oui.
Et ils veulent déléguer la totalité, mais j'en ai certains où ils veulent juste la commercialisation.
Oui.
Je dirais que c'est 20% du portefeuille. Et il y en a d'autres où ils gèrent la commercialisation, ils sont à distance et ils veulent juste le ménage et la blanchisserie.
Voilà. D'accord. Et puis que quelqu'un soit sur place si,
en cas de besoin.
Si le voyageur a besoin.
Mmh.
J'aime beaucoup votre expression investissement, mais passif.
C'est ça.
En fait, si j'ai bien compris, en termes de rentabilité, il n'est pas si passif que ça.
En termes de rentabilité, c'est-à-dire
financière pour le client. C'est juste ne pas s'en occuper, en
c'est
fait.
C'est ça. Quand je parle de passif, c'est pas actif et passif, c'est passif des revenus passifs. C'est-à-dire on s'en occupe pas.
Ça travaille tout seul.
Et voilà. Et...
non, mais c'est bien de le préciser parce que moi, j'ai toujours une logique un peu bilan.
C'est ça.
Et donc, c'est faut faire attention.
Ouais, voilà. Je parle pas d'actif et passif comptable.
Voilà.
Je parle passif ou.
On a donc là sur les biens que vous avez en gestion, puisqu'en fait on peut le résumer un peu comme ça, vous intervenez pour le compte des propriétaires. Ce sont des biens qui sont situés à Nevers, qui sont situés partout dans la Nièvre.
Principalement en hypercentre.
Oui.
Et après dans l'agglo, Marzy, Varennes-Vauzelles, dans les alentours.
D'accord.
Voilà.
Et comment vous qualifieriez justement de ces biens ? Vous parliez tout à l'heure de la qualité des biens.
C'est ça.
Qui était mis en vente. Qu'est-ce qui est important pour les clients ? Cette fois-ci, on va passer de l'autre côté.
Les voyageurs, je les appelle les voyageurs.
Voyageurs, voilà, d'accord.
Comme ça, on va différencier.
On va différencier, oui, parce que vos clients sont les propriétaires et les voyageurs. Qu'est-ce qui est important pour les voyageurs qui viennent dans notre ville de Nevers au niveau d'un Airbnb ? Qu'est-ce qu'ils attendent ?
En dehors de la réactivité du concierge, c'est plus les qualités du logement. Donc, ça passe par le couchage, la déco, le parking. Souvent, quand il y a un parking, c'est un plus. Mais grosso modo, c'est l'expérience client qui est importante.
Alors, si on parle de parking et on est en hypercentre, je suppose que ça doit être un peu casse-tête, non ?
Ouais, ça dépend à l'heure où ils arrivent. Souvent, je leur dis, après 16-17 heures, vous allez trouver facilement de la place.
Oui.
Et il faut prévoir un disque bleu.
Oui.
Il y en a, ils ne connaissent pas du tout, c'est quoi ? Je dois leur envoyer la photo du disque, un screenshot que je trouve sur Internet. Mais dès qu'ils arrivent un peu en décalé, ils arrivent à trouver de la place assez facilement. Et je leur indique aussi les parkings souterrains qui sont à proximité.
Pour qu'ils puissent stationner facilement.
Mmh.
Et puis alors, on a une deuxième activité qui est liée, c'est le café Lavry. Expliquez-nous pourquoi Foule de Verre Conciergerie a décidé d'investir dans un café Lavry.
En fait, moi j'ai décidé de ne pas travailler avec des blanchisseries professionnelles de par l'engagement et les prix pratiqués.
Oui.
Parce que j'ai envie de pratiquer des prix assez raisonnables pour que l'investisseur soit rentable plus que la moyenne. Et derrière, j'utilisais une laverie. Et je me suis dit, pourquoi pas créer ma propre laverie pour déjà diminuer mes charges et déjà devenir propriétaire, augmenter le patrimoine et l'ouvrir au public pour booster, encore une fois, ma rentabilité. En l'ouvrant au public, ça m'a permis de générer des revenus complémentaires. Et donc voilà, l'idée est venue d'ici. Et vu que je travaille pas mal sur l'ordinateur, je me suis dit, pourquoi pas créer un espace où je pourrais moi-même travailler. Donc avec Wi-Fi, imprimante, et aussi ouvrir cet espace-là au public. Et j'ai des gens, des fois, qui viennent se poser avec leur ordi, imprimer des documents, travailler, etc. Donc voilà
oui,
l'idée.
Parce que le principe, donc vous en avez fait votre bureau, la laverie pour la conciergerie, et de fait, il y a un café et un espace de coworking qui sont associés, c'est ça ?
C'est ça, mais c'est pas un style bureau... classique, c'est
oui.
plus un style appartement où chacun est à l'aise et se sent chez soi avec une décoration réfléchie, très nature. Une décoration, il y a beaucoup de verre,
j'aime
tout ce qui est nature, donc avec des fauteuils assez confortables. Donc pas une ambiance de bureau, plus une ambiance de café où on pose son ordi sur ses genoux ou sur la table haute. Et on peut bosser tranquillement.
Pendant que le linge tourne.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Et donc vous travaillez sur place finalement.
C'est ça. Moi je travaille sur place et des fois comme là je suis venu mais je me suis fait remplacer par ma collaboratrice.
Voilà. Merci d'avoir dégagé du temps.
Merci.
Quel type de clients on va trouver dans la laverie ou au café laverie?
J'ai ouvert depuis juillet, donc là j'essaie d'analyser. Ouais, c'est assez récent. Aujourd'hui j'ai eu un étudiant par exemple qui est venu, qui a lavé son linge. Il a pris le programme de fidélité, donc il gère depuis son téléphone. Derrière, il avait des documents imprimés, il a imprimé. À côté de ça, j'avais une dame à la retraite avec son bouquin qui était posé dans l'espace salon. Et avant ça, j'avais un petit monsieur aussi à la retraite. Qui vient laver son linge. Donc ça va de l'étudiant à la personne âgée, mais il y a aussi des personnes actives qui viennent laver leurs couettes.
Ah oui, voilà, les couettes.
Oui, il y a un peu de tout.
Il faut de très grandes machines pour
c'est
les couettes.
C'est ça.
Ouais. Ok. Je vous propose que l'on marque une première pause musicale avant de se retrouver pour parler de l'actualité économique. Délil, qu'est-ce que vous souhaitez nous faire écouter?
Pour ma fille.
Ah, c'est pour votre fille. Elle s'appelle comment?
Alice. Donc, elle aime bien Louane, la pluie.
D'accord. Et bien, on se retrouve dans quelques instants.
Les rendez-vous de l'écho du territoire. Retour dans un instant.
C'était mes larmes ou juste un bout de toi qui part. Je crois que j'ai mon qui tremble. Je cherche un peu la flamme. Est-ce qu'il reste nous quelque part? Mais quand tu me regardes, je baisse un peu la garde. Mais la pluie coule encore à mesure que nos cœurs se dévorent. Est-ce que tu m'aimes encore?
Retour dans les rendez-vous de l'économie du territoire consacré à Délil Torquesul qui dirige Foule Nevers, Conciergerie et le Café Laverie. Délil, nous avons donc parlé de vos activités dans la première partie de l'émission et nous allons maintenant nous intéresser justement au marché de la location courte durée, dont on entend beaucoup parler dans le cadre du projet de loi de finances et qui déchaîne un petit peu les passions dans certaines villes. Un peu moins chez nous, mais j'aimerais que vous puissiez nous en parler. D'abord, sur le projet de loi de finances, il est question de rehausser les taux de TVA et de permettre que ce type d'investissement soit moins avantageux finalement pour les propriétaires investisseurs. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à cela?
C'est un projet de loi qui est en pourparlers.
Oui, on n'est pas encore...
Pour pour inclure de la TVA sur les logements en location courte durée, parce que là, on rentre dans la classe des bénéfices industriels et commerciaux, en loueurs meublés non professionnels ou pour ceux qui sont en SAS ou autre. C'est selon ils ont choisi d'être assujettis à la TVA ou pas. Donc là, ils veulent mettre la TVA pour tout le monde, pour pouvoir justement renflouer les caisses.
Donc plus de systèmes qui permettent d'éviter et d'avoir un biais en fonction du statut que l'on a.
C'est ça.
Et donc, c'est reconnaître véritablement une activité commerciale, finalement.
C'est ça, une activité commerciale. Et aussi, le fait qu'il y ait de plus en plus de Airbnb fait que la tension locative dans les logements classiques est de plus en plus grande.
Oui.
Et donc, c'est aussi pour que les personnes avec des Airbnb puissent revenir dans le marché classique, et que ce soit plus intéressant ou équivalent par rapport à la location courte durée, même si ça m'étonnerait. mais ça se peut qu'il y ait des gens avec des biens, comme je l'ai dit tout à l'heure, en dessous de la moyenne, avec des prestations pas top, et qui se disent « bon, bah, ça suffit, je repars sur de la location classique ».
Oui, parce qu'on a quand même un peu le sentiment, vous me dites si je me trompe, que ça a été un peu un effet d'aubaine et que tout le monde s'est dit plutôt que de louer de façon classique en longue durée avec un loyer qui tombe tous les mois, je peux booster ma rentabilité parce que je peux louer en multipliant par 2, par 3 mon loyer en le faisant que sur de la courte période. Et cet effet d'aubaine a peut-être conduit à ce qu'on ait un peu de tout sur le marché aussi.
Ouais, un peu de tout. Et après, il y a aussi, par exemple, j'ai des clients qui ont une maison de famille qui veulent pas vendre. Ils la gardent pour des rassemblements familiaux, pour Noël, jour de l'an, ou quand ils viennent ici, c'est leur point de chute, ou vice-versa. J'en connais qui ont des points de chute dans le sud, ils louent. Et quand ils veulent aller en vacances, ils peuvent y aller. Mais là, je crois que j'ai pas répondu à ta question. À votre question, pardon.
Non, mais on avait l'habitude quand on avait même les premiers gîtes, puisque c'était l'appellation classique, où c'était souvent des maisons de famille. On avait les vieux meubles de famille, un confort un peu spartiate, mais ça coûtait pas très cher, et pourquoi pas. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur ce type de bien, sur de la location courte durée, surtout en ville. Et mine de rien, la multiplication des logements qui sont en courte durée génère effectivement, vous le disiez, des tensions dans un certain nombre de villes. Alors, je ne sais pas si sur Nevers, on peut parler de tensions, mais ça commence aussi.
Ouais. J'ai pas mal de... Arrivé à une période juillet, je dirais, j'ai des personnes qui tentent, qui envoient un message sur Airbnb en disant « Votre appartement m'intéresse, je suis étudiant, je vais m'installer à partir de septembre, est-ce que vous le louez au mois ?» Ça arrive régulièrement. Parce que voilà, on a à peu près 20% d'étudiants, je crois, sur Nevers.
On a une tension locative effectivement pour les étudiants qui ont des difficultés à trouver des logements corrects.
C'est ça, c'est ça.
Y a aussi de tout sur le marché.
C'est ça.
Mais donc on ressent même dans une ville de taille moyenne comme la nôtre, une ville médiane, c'est déjà une tension que l'on ressent. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes, les demandes de certaines municipalités d'enlever les boîtes à clés, par exemple, de contraindre les propriétaires à revenir sur le marché de la location plus traditionnelle?
Après, je pense que le souci de la tension locative était là bien avant. Je pense qu'il y a déjà, au départ, avant qu'Airbnb s'implante, un problème de logement. Nevers ou en France en général, je pense qu'il y a quelque chose à faire du côté des municipalités ou de l'État pour créer des logements adaptés aux étudiants. Je pense qu'il y a pas mal de bâtiments vacants pour cela. Mais après, enlever les boîtes à clés pour inciter les gens à basculer sur de la location classique, je trouve ça dommage de demander aux personnes qui cherchent à s'en sortir de faire le devoir régalien de de l'État ou autre. Mais voilà, pour moi, je trouve ça...
Alors, on le trouve essentiellement dans les municipalités où il y a des tensions importantes et où les prix, en fait, à la location ont tellement augmenté que les gens, les habitants n'arrivent plus du tout à se loger et doivent partir loin alors qu'ils travaillent dans la ville.
Ouais.
On est sur des zones très touristiques où on a cette
Saint-Malo,
difficulté là.
Disneyland, etc.
Voilà. Aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas chez nous. Néanmoins, on a une tension effectivement au niveau des étudiants et la difficulté, elle se situe là. Au niveau des différentes mesures qui sont en pourparlers actuellement, est-ce que vous pensez que ça va avoir un effet quand même de réguler un peu ce marché, parce qu'on a l'impression qu'on arrive un petit peu en haut du cycle et qu'il va falloir faire l'écrémage maintenant.
Ouais, hein, ça pousse comme des champignons.
Non, mais comme tout marché économique, il y a une phase d'ascension et puis à un moment donné, il faut bien que le marché se régule.
Après, le voyageur aura de plus en plus de choix.
Oui.
Donc, moi, je dis que ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui proposent des prestations de qualité avec une déco réfléchie. C'est pour ça que je dis souvent que travailler avec une ou un décorateur d'intérieur, c'est le minimum pour du long terme, parce que les gens, ils veulent que ce soit confortable, joli et se créer une expérience de voyage sympathique. Donc je pense que ceux qui ont des vieux biens en Airbnb qui datent, qui ont pas mis la main à la poche pour rénover ou améliorer, ces gens-là, je pense qu'ils vont soit rebasculer sur de la location classique ou soit décider d'investir et refaire leur déco ou autre. Mais oui, il y aura des gens qui vont repartir sur de la location classique.
C'est une façon d'écrémer le marché.
Aussi, c'est l'efficience du marché qui va faire le nécessaire, avec la main de l'État aussi.
Oui, à un moment donné, l'État régule en fonction de ses besoins financiers, mais aussi, parfois, certaines dispositions amènent un marché à se réguler. On parle aussi, toujours dans ces affaires-là, de beaucoup de concurrence déloyale. En tout cas, les hôteliers se plaignent de la concurrence déloyale en disant qu'en fait... les propriétaires de logements qui sont loués en courte durée n'ont pas des charges fortes tout le temps, comparativement à un hôtelier qui, lui, va être ouvert 365 jours par an, qui va avoir des charges de personnel plus élevées. Est-ce que ce sont des marchés qui sont vraiment en concurrence déloyale ou est-ce que la clientèle est différente ?
Il y a certains voyageurs qui potentiellement peuvent prendre une chambre d'hôtel.
Oui.
Après, c'est comme tout le monde, ils regardent leur portefeuille. La différence avec les chambres d'hôtel, c'est qu'ils peuvent cuisiner, ils ont un espace cuisine. En règle générale, à prix équivalent, ils ont plus de mètres carrés. Il y en a, ils préfèrent être tranquilles, je dirais, dans un appartement atypique ou un appartement... assez différenciant par rapport à l'hôtellerie. Il y en a qui sont fidèles à Airbnb et d'autres fidèles aux hôtels. Après, en règle générale, les professionnels, entreprises ou autres, prennent des biens dans les hôtels. Mais voilà, après, c'est vrai qu'ils ont plus de charges, plus de normes, plus de frais. Et donc, comparativement, leur nuitée est plus chère que Airbnb. Donc... oui, il y a un peu de concurrence, on va
donc
pas se cacher.
Oui, il y a un peu de concurrence déloyale.
Oui, ouais.
D'accord, non, mais au moins c'est dit, parce qu'on a l'habitude d'entendre les hôteliers qui se plaignent de cette concurrence déloyale, et souvent face à eux, des propriétaires de biens en location courte durée, ou même de conciergerie, qui disent, non, finalement, c'est pas tout à fait... Il y a quand même une part de concurrence déloyale, il faut le reconnaître.
Pour moi, l'hôtellerie, c'est de l'immobilier, et avec plus de contraintes, donc aucun intérêt pour moi d'être hôtelier aujourd'hui.
Ça, on l'avait bien compris. compris.
C'est de l'immobilier avec des obligations en termes de normes. Il y a tous les ans, je crois, ils doivent remettre à zéro un cahier, je ne sais plus.
On a des normes de bassin des locaux à sommeil qui nécessitent d'avoir une réglementation particulière en termes d'issue de secours, en termes d'ascenseur, en termes de sécurité, plus le personnel,
les salaires, tout coûte cher. Et c'est vrai qu'ils ne peuvent pas s'aligner par rapport au prix pratiqué par Airbnb parce qu'il y a des niches fiscales avec le loueur meublé non professionnel, pas de TVA, etc. Donc,
niches fiscales qui vont être probablement, en tout cas. On verra ce que donnera le vote du budget, mais il est question que quand même il y ait quelques coups de rabot significatifs sur ces dispositifs aujourd'hui. Délit en cursule, nous arrivons au terme de cette deuxième partie d'émission. Je vous propose de marquer une nouvelle pause musicale. Alors, qu'est-ce qu'on écoute cette fois-ci ? Toujours pour votre fille ?
Encore pour ma fille, ouais.
Oh, qu'est-ce qu'elle a de la chance.
Ouais, c'est elle, elle aime tout ce qui est musique et danse.
Ah, bah voilà.
Louane, on l'a déjà vu en
concert.
Voilà,
on a eu Louane tout à l'heure.
Et en février, on va voir Gims en concert.
Ah, donc on va écouter du Gims ?
Ouais.
Et quoi en particulier ?
Spider.
Et ben voilà. On se retrouve juste après. À tout de suite.
Les rendez-vous de l'écho du territoire, retour dans un instant.
Maximum. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets sur le féfé, je préfère mieux ça que l'audit tété. Donc, Spider pour cet été, je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer, ce soir t'es mon trophée. Concert complet à Düsseldorf, gonflé à bloc comme Usain Bolt. Je suis dans le radio, je traverse l'époque. Je fais du shopping sur un jour off. Le jet atterrit à Lausanne. Je suis vêtu comme Lausanne. Les lunettes par quand je les vois. Et mystérieux comme Oda. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets sur le féfé, je préfère mieux ça qu'audit tété. Donc, Spider pour cet été, je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer, ce soir t'es mon trophée.
Ah, t'es ma vie, ah, high and deep, ah. Je n'ai vu que toi, ah, baby.
On y va.
Casac plein de cash.
Ils sont choqués, million dollars. Ça me choque pas, je suis full human. Ils sont dans vos locaux, j'ai v'la même main. Je pose des milliers à LV, banane.
Y'a galvé, y'a galvé. Y'a l'amour et y'a la monnaie. Y'a galvé, y'a galvé. Marhaba fi alami.
Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets sur le féfé, je préfère mieux ça qu'audit tété. Donc, Spider pour cet été, je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer, ce soir t'es mon trophée.
Ah, t'es ma vie, ah, high and deep, ah. Je n'ai vu que toi, ah, habibi.
On y va. Chambouler le rinté, oh, n'invite pas la cité. Elle va chambouler le rinté, chambouler le rinté, oh, chambouler le rinté.
Les rendez-vous de l'écho du territoire, tout de suite, la suite.
Nous sommes de retour avec Delil Torgursul. Je ne vais pas y arriver, Delil, je suis désolée. Qui est le président de Foule Nevers Conciergerie et du Café Laverie, notre invité de ce jour dans les rendez-vous de l'économie du territoire. Delil, cette troisième partie d'émission vous est consacrée. J'aimerais que vous puissiez déjà nous parler de votre parcours. Et comme souvent pour nos invités, j'aime bien que les invités me disent à quoi ils rêvaient quand ils étaient petits.
Oh punaise, oh je suis timide.
C'était quoi votre rêve?
Moi?
Ouais, quand vous étiez petit.
Oh punaise.
Devenir grand, être fait, quoi?
Non,
pompier?
Fauconnier.
Fauconnier, d'accord. Ouais. Alors ça, c'est pas du classique quand même. Hein.
Ouais, rien n'est classique chez moi.
Rien n'est classique, bon bah tout va bien. Parce que souvent, on a pompiers, ambulanciers, enfin voilà, plein de choses, policiers. Alors, fauconnier, pourquoi donc?
Bah, tout ce qui est rapace, ça m'intrigue, ça me passionne.
C'est... Depuis tout petit?
Depuis tout petit, oui, j'en avais aussi. C'était interdit, j'en chopais dans les nids. Bah, ici, on a des faucons cresserelles, oui. Donc on les récupérait dans le nid, sachant que y a, sur les 5-6 œufs, il n'y en a que un ou deux qui survivent. Donc on se rassurait comme ça, on dit si on en prend un, c'est pas grave. Mais on en laissait toujours à la mère et au père. Et bah après, vu qu'on l'avait tout bébé, on le nourrissait et après, il était apprivoisé, quoi.
Oui, c'est pas très autorisé, ça.
C'est pour ça que j'ai dit, oh là.
Oui, oh là 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 là.
Ouais, quand j'étais tout petit, je m'en doutais pas que c'était interdit, quoi.
Alors, depuis, on est passé sur des activités plus légales en grandissant. Qu'est-ce qui s'est passé entre la fauconnerie et la conciergerie? Parce qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes activités.
Oula.
Qu'est-ce qui a fait que vous arrivez sur le parcours qui est le vôtre aujourd'hui?
En fait, après le collège, je suis allé voir, bah, comme tout le monde, je suppose, je ne sais pas si ça existe encore, la conseillère d'orientation.
Oui, ça existe encore. Il y en a de moins en moins dans les collèges, mais ça existe encore.
Dès que je lui ai dit ce que je voulais faire, fauconnier, en plus, c'était vrai. Elle m'a dit le prix. À l'époque, c'était dans les 10 000 francs, je crois, pour se former.
Oui.
Père ouvrier, mère au foyer, compliqué, pas les moyens. Donc, au final, j'ai fait un BEP compta.
C'est très bien dit, ça.
Donc, j'allais à l'école, je disais à ma mère, c'est pour vous, hein, parce que ça me plaît pas du tout.
D'accord.
Elle m'a dit, vas-y, obtiens ton diplôme et après, tu feras ce que tu veux. Et j'obtiens mon BEP. Elle me dit, bah, allez, encore un peu, fais un bac pro, obtiens-le et après c'est bon, tu peux aller travailler. Entre temps, mon père m'emmenait en maçonnerie, j'ai dit c'est mort, c'est pas pour moi.
D'accord, donc des choix par élimination, on va dire.
Bon, on m'a dit tu vas faire ça, j'y suis allé, quoi.
Ouais. Ouais,
donc, et j'avais pas le choix, entre guillemets.
Ouais.
Donc voilà, après j'ai fait le bac pro commerce, je l'ai eu et c'est là que je me suis inséré dans la vie active à Armatis.
Oui.
Donc centre d'appel, je me suis dit que ça allait être provisoire, le temps de trouver autre chose. Le provisoire a duré 2 ans.
Ah, c'est pas mal.
Et donc je me suis dit, bon, ça peut pas continuer, je vais reprendre l'école. Mais pas l'école comme classique.
Vous étiez fâché avec l'école?
Moi, je n'ai jamais trouvé ma place à l'école.
D'accord.
Voilà, j'ai jamais aimé être en rang, deux par deux, pas pouvoir discuter avec le camarade, etc.
J'étais c'était un peu plus sympa d'aller dans les nids.
Dans les champs, dans les nids, aller chasser.
Voilà.
J'avais trop d'énergie. Et donc, bah, après, j'ai fait un BTS d'attaché commercial avec la CCI en alternance avec le Crédit Agricole que j'ai obtenu. Ensuite, bah, ils ne m'ont pas gardé. J'ai connu une petite période de chômage de 10 mois environ.
Ouais.
Et avec ce BTS d'attaché commercial, j'ai trouvé un job en tant que commercial terrain dans la rénovation de l'habitat, donc tout ce qui est seconde œuvre. Donc après,
on se rapproche de l'immobilier.
Et
là,
voilà. Que j'ai commencé au tout début un peu de maçonnerie, je dis c'est pas pour moi, il y avait un peu d'immobilier.
Mais quand même.
Voilà. Ensuite, bah, ça se passait plutôt bien. Au bout de 2 ans, on m'a proposé d'ouvrir une succursale à Rouen. J'ai accepté pour évoluer. On m'avait dit qu'au bout de 3 mois, je passerais chef. Au bout de 3 mois, je ne passe pas chef.
Ouais, donc ça ne vous plaît pas, ça?
Oh, ah non. Et entre-temps, on m'avait proposé d'intégrer Generali Assurance. J'avais dit non. Et dès que voilà, j'ai vu qu'ils ne tenaient pas parole, J'ai dit, bon, bah, je rappelle. J'ai dit, bon, bah, je suis chaud. Si vous voulez, on se voit.
Et vous êtes passé par l'assurance.
C'est ça. Okay. Donc, Generali Assurance. Donc, bah, Crédit Agricole. Non, Armatis, Crédit Agricole.
Oui.
Ensuite, bah, le Generali Assurance. Et le 30 décembre 2015, ma fille naît.
Oui.
J'étais chez Generali à l'époque. Ma femme faisait un baby blues.
Oui.
Et à l'époque, on avait 14 jours de congé paternité, repartir au travail. C'était compliqué pour moi. Et au bout d'une semaine de reprise, après une sieste, je me réveille, je perds la vue de l'œil droit. Donc un burn-out, quoi.
Ah oui.
Ouais. Donc un burn-out. Je vais aux urgences. Ils me disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Il faut que j'aille à Dijon. Je vais à Dijon, je vais à Paris au 15-20, essayer de trouver l'origine de ce décollement de rétine. C'est un liquide qui venait décoller la rétine. Et au final, ils m'ont dit, normalement, ça arrive à la naissance, c'est congénital. Vous, c'est arrivé en cours de vie, donc c'est un burn-out, donc il faut vous reposer.
C'est un des symptômes du burn-out,
c'est
on ne connaît pas.
Voilà, en fait. C'est okay. Physique, c'est le physique qui a lâché. Donc au bout d'un an à peu près de consultation, tous les mois j'y allais pour voir l'évolution, etc. Je me suis fait opérer. En gros, ils m'ont enlevé le liquide qu'ils m'ont appelé grossièrement le blanc d'œuf de l'œil. Ils m'ont injecté un gaz pour repousser ce truc qui me décollait la rétine. Donc,
ouais.
Au final, je restais 10 heures par jour, la tête baissée pour recoller la rétine au fond de l'œil. J'ai eu le temps de réfléchir comment j'en suis arrivé là. Et pour moi, c'était le fait d'être retourné au travail en tant que salarié. Je venais d'être papa, je devais assumer mes responsabilités, alors que je devais rester auprès de ma famille et ne pas aller travailler. Et je me suis dit, plus jamais en tant que salarié, donc je vais créer ma boîte. Qu'est-ce que je sais faire? J'ai travaillé en banque, en assurance, dans le bâtiment. Je me suis dit, je vais devenir courtier en crédit. Et aussi investir en parallèle à titre perso dans l'immobilier.
D'accord.
Donc j'ai commencé par acheter un terrain, construire une maison. Pendant que la maison était en construction, deux autres appartements, ensuite un immeuble. Et voilà, là aujourd'hui j'ai acheté un local commercial, mais toujours dans cet esprit, se créer plusieurs sources de revenus. Si jamais ça doit me réarriver et que je peux ne pas aller travailler, je sais que j'aurai quand même de l'argent qui va tomber. Et donc là, j'ai testé Airbnb à peu près 4 ans. Et j'avais un appart que j'ai rénové. J'ai dit, bon, allez, je teste tout seul avec des tutos. J'ai publié, je me rappelle, je n'avais pas dormi de la nuit pour publier correctement les photos. Et j'ai vu que le lendemain, une réservation. Et après, dans l'immeuble que j'ai, quand un locataire partait, je rénovais Airbnb, etc.
D'accord.
Voilà.
C'est comme ça que vous êtes venu à la location courte durée. Et l'idée de la conciergerie, c'est venu naturellement, en
c'est
fait.
Ça. Je me suis dit, bah, y a de la demande. Je sais que c'est quelque chose qui peut intéresser les gens. Et autant gérer mes biens et aussi gérer les biens d'investisseurs et de propriétaires. Donc après, je n'ai pas fait trop de pubs, etc. C'était plus le bouche à oreille.
Oui.
Et voilà, ça a bien pris. Et là, aujourd'hui, je vais faire le café lavré en plus.
D'accord. Et en termes de perspective, j'ai cru comprendre que l'international, ça pouvait être rigolo.
Ouais, c'était marrant, ça, c'est une anecdote. Oui, je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais je suis parti en vacances à Marrakech, au Maroc. Et j'avais loué sur Airbnb. Et l'expérience client, elle n'était pas là.
Ah.
Donc après,
pourtant, on parlait de ça.
Ouais, voilà. C'est vrai que c'est top. Hein, le riad est magnifique, mais voilà, l'expérience client pour arriver jusqu'au riad n'était pas tout à fait au point. Donc avec le gérant, ils sont très avenants là-bas. Voilà, je lui ai donné 2-3 conseils. Il m'a dit, bouge pas, j'appelle celui qui gère pour moi, je vais le faire venir. Il est venu, il dit, bon, vas-y, dis-lui ce que tu m'as dit. En gros, j'étais là, je lui donnais des conseils en disant quel logiciel utiliser, comment faire, etc.
Et donc après, même en vacances, vous bossez, vous?
Sans faire exprès.
Pas fait exprès.
Parce que j'aime bien aider, j'aime bien donner des conseils, c'est plus fort que moi. Et je rentre en France. On échange les numéros, etc. Il me rappelle, il me dit, l'autre, il me saoule, c'est bon, j'en veux plus. Est-ce que tu peux t'en occuper?
Donc, dans vos biens en gestion, vous avez des biens à Nevers et un riad.
Au Maroc. Ouais, voilà. Ça s'est fait comme ça. Après, voilà, c'est à chaque fois, c'est opportunité, rencontre, connaissance. Et, Et voilà, je rends service, quoi, en gros.
D'accord, on fait du business en rendant service.
Gagnant-gagnant, toujours.
Je vous propose, Delille, que l'on se quitte sur ces paroles, puisque nous arrivons au terme de notre émission. Merci en tout cas été notre invité, de nous avoir parlé de Foule Nevers Conciergerie et du Café Laverie, entre autres. Merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Chaque mardi, retrouvez en exclusivité sur NVS Radio un acteur économique de notre territoire. Les rendez-vous de l'économie du territoire, c'est tous les mardis à 19h sur NVS Radio.